Direct en jeu, la radio insolite. Vous savez qu'il y a des fois où je me trouve confronté à un problème. Et là, j'ai un vrai problème. Je ne sais pas si je dois l'appeler Donna Guibert ou Guibert Donna. Bonjour Donna, bonjour Guibert. Alors vas-y, explique.
Bonjour, tu n'es pas le premier, tu sais, à avoir ce petit souci. Mais je te rassure, mon prénom, c'est Donna. Donna, il y a eu des saints et c'est un vieux prénom, hein, D-O-N-A-T. Et Guibert a été aussi un prénom à certains moments, il peut être considéré comme un prénom, mais c'est vraiment Donna le prénom et Guibert le nom de famille. Voilà, tu sais tout presque.
Vu que tu es dans la culture, c'est ton nom de scène ou c'était ton vrai nom ?
C'est mon vrai nom, figure-toi. C'est ma maman, je dois tout à ma maman. Hein. C'est elle qui a trouvé ce joli prénom et qui s'est dit, tiens, c'est chouette, je vais l'affubler de ce prénom-là et voilà, je le porte. Alors, ça n'a pas été forcément une partie de plaisir, tu sais, parce que quand j'étais petit, on m'appelait Danette, Danone. Oui. C'est les enfants sont souvent cruels, mais après, ça s'est arrangé, ça va. Tu sais tout, alors.
D'accord, ben parfait. Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans cette passion du théâtre et de la culture ?
Écoute, là encore, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient, non pas plongés dans la culture, mais qui aimaient ça. Mon père était plutôt dans le sport, mais culture aussi sportive, et ma mère, elle était plutôt dans la culture musicale, théâtrale, et c'est grâce évidemment à ce mélange que j'ai pu, moi, assez jeune, connaître évidemment la musique, le théâtre, et pouvoir effectivement m'inscrire à des cours. Et puis les rencontres aussi avec les professeurs, très important les professeurs, quand tu tombes sur un professeur de français qui adore le théâtre, ça peut t'ouvrir des champs, ça peut t'ouvrir vraiment des horizons. Et c'est pour ça d'ailleurs que je milite pour qu'on ait une reconnaissance des professeurs beaucoup plus grande, parce que ce sont eux qui peuvent vraiment changer, non pas la face de la planète, mais en tout cas les univers de chacun à son échelle. Tu peux vraiment faire quelque chose pour des élèves qui sont un peu en perdition et qui tout d'un coup, grâce à un prof, vont dire « mais c'est ce que je veux faire ». Voilà, et c'est ce qui m'est aussi arrivé, grâce à une professeure que je nommerai, qui s'appelle Madame Rebelle, et que je salue d'ailleurs dans cette interview. Tiens, j'en profite.
D'accord, tu as raison, tout à fait. Bon, et puis en plus, non seulement tu fais du théâtre, mais tu te diriges vers tout ce qui est pièces historiques.
Oui, alors, ce n'est pas forcément au départ mon domaine de prédilection, parce que tu sais, moi je viens à la base plutôt du seul en scène, du one-man show, puis ensuite j'ai fait mes classes conservatoires de région et conservatoire de Paris. Donc je me suis frotté au classique avec des gens de la comédie française, Françoise Seigné, il y a eu Jacques Seller à une certaine époque, Régis Santon, enfin des grands du théâtre. Et ça m'a appris la rigueur, évidemment. Et Laurence Bourdil, j'en passe parce que j'en oublie certainement. Jacques Dacmine aussi, j'allais l'oublier. Et ces gens-là m'ont vraiment appris mon métier. Et j'ai eu la chance, après, de pouvoir travailler dans des productions théâtrales et puis aussi des productions cinéma et télé. Et c'est là où, effectivement, j'ai vraiment appris ce que c'était qu'être acteur, que d'aborder un rôle, d'aborder un univers d'auteur, hein, l'univers d'un auteur, et puis de le défendre. Voilà, donc il y a vraiment ce parcours. Et l'historique, c'est venu en deuxième partie. C'est parce qu'il y avait des sujets qui m'intéressaient et ces sujets étaient dans un tissu historique. Mais c'est surtout la rencontre des hommes et de grandes personnalités. Fouquet-D'Artagnan, sur lequel, évidemment, j'ai écrit une pièce qui s'appelait Fouquet-D'Artagnan ou une amitié contrariée, puisque personne ne savait que ces deux-là se connaissaient formidablement bien et qu'il y en a un qui a arrêté l'autre, quand même, pour un des plus grands procès historiques truqués de l'histoire. Et effectivement, lors de mes lectures et de mes rédactions sur cette première pièce, eh bien, j'ai vu qu'il y avait ce fameux masque de fer qui était dans le coin et qui connaissait bien Fouquet et qui connaissait bien aussi, alors on va dire non pas D'Artagnan, mais Monsieur de Saint-Marc, qui était un des mousquetaires, qui était le gouverneur de Pignerol, qui s'est occupé de ce masque de fer. Donc tout ça, voilà, c'est plutôt des rencontres avec des personnages très forts, hauts en couleur, qui font que tout d'un coup, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'en parler et de faire connaître ces histoires qui sont souvent méconnues. Et c'est ce qui m'intéresse le plus.
Et en plus, c'est intéressant, puisque pour la 3457e fois, tu reprends le spectacle. J'exagère un peu, 3457.
Hein. Oui, non.
Tu reprends le masque de fer et le mousquetaire au théâtre.
Mais Voilà, c'est-à-dire au vu du succès, j'allais dire, non, ça reste des salles modestes, sont des salles de 50 places à chaque fois. Alors ça m'est arrivé évidemment de jouer dans des salles un peu plus grandes, on va dire, même si c'est un théâtre, c'est une œuvre intimiste en fait, le Masque de Fer, donc on n'a pas besoin de jouer dans du 500 places parce qu'on perd un peu le spectateur. Mais du 200, c'est bien, grand maximum. Mais oui, je l'ai, ça fait, en fait, je l'ai joué deux fois à Avignon, et là c'est la deuxième fois qu'on le reprend à Paris, dans cette petite salle, donc le Théo-Théâtre, comme tu l'as dit, tous les dimanches à 16h30. Et c'est vrai que les gens ne connaissent pas cette histoire-là, hein, parce que c'est l'histoire évidemment de Monsieur de Saint-Mars, ce mousquetaire qui est le parfait négatif de D'Artagnan et qui a créé de toute pièce le Masque de Fer, ce prisonnier illustre. Alors lui, il n'est pas resté dans l'histoire, alors que la légende lui a survécu. Et c'est ce que je raconte. Je raconte le parcours de ce mousquetaire, pourquoi il en est arrivé là, qu'est-ce qui lui a pris de se dire un jour, tiens, je vais prendre un de mes prisonniers et je vais lui mettre un masque sur la tête. Et c'est une grande supercherie. Et c'est ce que je raconte. Et les gens ne connaissent pas ça parce qu'ils se sont tous arrêtés, évidemment, aux frères jumeaux du roi, avec Leonardo DiCaprio. J'adore quand les Américains s'occupent de l'histoire française, mais ils n'aimeraient pas qu'on fasse ça avec leur culture et l'histoire américaine. Ils n'aimeraient pas trop. Et je trouve qu'on est très très gentil avec eux et qu'il faudrait qu'on fasse plus attention à notre histoire et qu'on la défende davantage. Même si Alexandre Dumas a dit, on peut tromper l'histoire si on lui fait de beaux enfants. Et je trouve que là, pour le coup, les enfants ne sont pas très très beaux. En tout cas, les enfants américains. Voilà, petite digression fermée. Donc, ce monsieur de Saint-Marc, comme il est méconnu, bah, je continue avec mon petit bâton de pèlerin à raconter cette histoire. Et les gens sont toujours surpris, et agréablement surpris, puisque effectivement, là, on est vraiment dans l'histoire vraie, avec un grand V, et ils se disent, mais on ne connaissait absolument pas. Et cette vérité est beaucoup plus spectaculaire que le frère jumeau du roi que ces Américains nous ont laissé. Alors tu me diras, mais tu en veux aux Américains? Pas du tout, hein, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais à chacun sa culture et à chacun la façon de la défendre. Sinon, voilà, tu tords l'histoire et c'est pas forcément pour le meilleur.
Alors, ce qui est original, c'est que dans ce spectacle, on se demande ce que tu n'as pas fait. Tu es auteur, metteur en scène, comédien, tout seul sur scène,
Oui.
mais tu es aussi historien.
Oui, alors historien, c'est un bien grand mot. Disons que je fais pas mal de recherches quand j'écris, notamment sur un sujet historique. Tu vois, le dernier sujet que j'essaye de mener à bien avec Catherine Salvia, qui est une grande comédienne de la Comédie-Française, c'est le plaidoyer de Louise Bourgeois, accoucheuse de la reine Marie de Médicis, qui a créé les fondements de l'obstétrique moderne. C'est extraordinaire. Mais c'est une autre histoire. Alors c'est vrai que tu es obligé énormément de lire, de rechercher dans la syntaxe du XVIIe, début XVIIe ou milieu du XVIIe, vraiment d'aller dans les couches profondes de l'histoire. Et je remercie aussi tous les historiens auxquels je me réfère, c'est-à-dire Jean-Christian Petitfils, Eugène Dauriac, etc., qui eux sont vraiment des rats de bibliothèque et qui vont lire toutes les lettres, les correspondances dans leur jus, si j'ose dire, hein. L'écriture manuscrite là pour le coup, hein. C'est plus de la typographie, c'est encore plus dur. Donc oui, j'essaye de faire ça pour ne pas raconter trop de bêtises quand je suis sur le plateau. Parce que pour moi, c'est important d'avoir quand même 95-98% de vérité sur un plateau. Et puis, tu as les 2 ou 3% de fiction, parce qu'il faut bien en faire une dramaturgie. Mais le plus important, c'est quand même de dire, regardez, ce que vous voyez là, ça a vraiment eu lieu, et on ne vous raconte pas trop de carabistouilles. Parce que, voilà, c'est bien de mettre D'Artagnan sous Louis XIII, bravo Alexandre Dumas, parce que dramaturgiquement, les ferrets de la reine, etc. Mais les gens, maintenant, quand tu les rencontres, ils te disent, mais non, D'Artagnan, c'est Louis XIII. Et tu dis, mais non, c'est Louis XIV, les amis, c'est Louis XIV. Et tu vois, Dumas a eu cette force-là, hein, de pouvoir transformer l'histoire. Mais il faut revenir quand même à ces vieux fondamentaux pour ne pas trop, trop se perdre. Et on en a besoin en ce moment, de ces socles historiques. Par les temps qui courent, c'est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où on va aller.
D'accord. Ça commence le 8 février, c'est tous les dimanches à 16h30 au
Oui.
Théo-Théâtre. Théo-Théâtre, c'est un petit bijou.
C'est un petit écran, tu as parfaitement raison, et c'est une intimité qui est formidable pour le spectateur, puisque tu entends ton acteur respirer, tu le vois vraiment, t'es avec lui quasiment comme les petits marquis sur le plateau au 17e, t'es avec ton comédien, t'es avec lui, tu l'accompagnes dans ce voyage, et c'est formidable parce que dans ce spectacle, c'est un peu les montagnes russes, tu passes effectivement par des choses un peu dures, un peu compliquées au départ, parce que c'est un mousquetaire amer, et puis ensuite, il est un peu plus détendu, faire rire, peut-être pas, c'est pas du one-man show, mais il y a de la détente, il y a du sourire, il y a l'évocation du 17e avec toutes les petites marquises, les favorites. Donc voilà, et ce type de théâtre te permet effectivement d'aller au plus près de tout cet univers avec le spectateur. Vraiment, on est quasiment dans le même, j'allais dire... Tu es comme dans un avion, tu es dans la cabine de pilotage avec tes spectateurs. Ils sont avec toi, ils pilotent l'avion avec toi.
D'accord. Donc si je ne dis pas de bêtises, ça commence le 8 février, ça se termine le 26 avril.
26, voilà. Ouais. Du 8 février au 26 avril, donc c'est tous les dimanches à 16h30. Un horaire qui est important et un jour important parce que effectivement, je me suis aperçu que là, je pouvais vraiment toucher un grand nombre, que ce soit, alors évidemment c'est pas forcément des petits qu'on va emmener voir ce spectacle, mais à partir de 10-12 ans, si les parents aiment l'histoire, si les petits l'histoire, eh bien j'ai déjà eu des spectateurs jeunes et qui ont beaucoup aimé, avec qui j'ai discuté après, c'était formidable, et c'est vrai que ces jours-là, ce dimanche, hein, tous les dimanches, ça te permet vraiment d'avoir un public très large. Et c'est important pour justement pouvoir raconter cette histoire.
Et est-ce qu'on a le plaisir de te retrouver à nouveau en Avignon au mois de juillet ?
Ah bah écoute, comme tu l'as dit, pour la 3000e fois, je serai avec mon masque de fer, effectivement à Avignon, pour la 3e année, dans une petite salle là aussi, une petite jauge, 50 places. Et ce sera, si je ne m'abuse, vraiment un théâtre que j'aime beaucoup, parce qu'on avait déjà joué Fouquet d'Artagnan, on avait joué du Tchekhov, c'est l'Ambigu Théâtre.
D'accord.
Qui se trouve effectivement place des Corsins, et avec une direction très conviviale et une petite salle qui est fort sympathique. Donc, on aura vraiment la joie de jouer là-bas. Et petite mention avant de se quitter, je rends hommage vraiment, parce que tu as dit que je faisais tout dans ce spectacle, mais non, j'ai eu un metteur en scène, alors on a co-mis en scène, mais c'est quand même lui qui a fait le principal, c'est Alain Véniger, qui était comédien, metteur en scène, un grand comédien qui avait travaillé avec Jean-Laurent Cochet. J'en parle au passé, hélas, parce qu'il est décédé il y a 2 ans. Mmh. Et ce spectacle, c'est aussi une sorte de petit testament que je porte.
D'accord.
Et c'est important de le jouer aussi pour lui, parce qu'il m'a fait une belle, très très belle direction d'acteur, et que lui-même était un très bel acteur. Et dommage qu'il soit mort aussi jeune.
Ok. Du 8 février au 26 avril, au Théo Théâtre à Paris, à 16h30 tous les dimanches. N'hésitez pas à vous faire plaisir, à aller découvrir tout cela.
Merci. Exactement. À toi. Alors, c'est une petite note triste, hein, mais on va pas se quitter sur la tristesse. Hein. Monsieur de Saint-Marc est un être particulièrement complexe et qui passe du rire aux larmes. Et donc, je vous attends nombreux au Théo, parce que c'est ça qui est le plus important. Comme les Américains le disent, show must go on.
Très joliment dit. Merci à toi en tout cas.
Merci Alain.